Yourself the way you're there for others, as it's normal for these uncertain times to bring out negative emotions or anxiety. If you're finding it difficult to carry out daily tasks, there are solutions. Visit quebec.ca/gettingbetter or call Info Social 811. A message from the gouvernement du Québec.
Good evening and welcome to Older Women Live here on CKUT 90.3. We come to you every month on the second Wednesday of the month. My name is Laura Yaris. I'm your co-host this evening. Along with me is Marlène Rateau. And most of our show today is going to be focusing on mental health. October 10th, so last month actually, was the World Health Organization's World Mental Health Day. And we thought it would be good to feature something about this, even though we're in November. So we're going to be featuring an interview with Anne-Marie Boucher from the Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec, the Quebec Mental Health Alternative Resources Association. And later on in the show, we're also going to focus a little bit on November 11th, which is today, given that it is Remembrance Day, and we're going to do a little anti-war conversation and talk a little bit about a group called Échec à la guerre, which is an anti-war organization here in Quebec. So we're going to start off now. Marlène introduces Anne-Marie Boucher, and here's our interview.
C'est avec plaisir que nous accueillons Anne-Marie Boucher, n'est-ce pas? Anne-Marie qui est du regroupement des ressources communautaires en santé mentale. Est-ce que je... Oh, non, il y a une alternative. Peut-être que je vais vous laisser le dire vous-même.
Oui, mais en fait, oui, je suis de l'équipe du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Donc, on est très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Et nous aussi. Alors, la santé mentale au Québec, ces jours derniers, on en parle beaucoup. Depuis qu'il y a eu ce fameux incident, ce n'est pas un incident, c'est un meurtre à Québec. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose dont on parle depuis bien plus longtemps. Et je pense que vous fêtiez dernièrement, vous célébrez dernièrement l'anniversaire de ce regroupement-là. Pouvez-vous nous en dire quelques mots au départ de cet anniversaire-là?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, le regroupement, c'est un regroupement qui existe depuis 37 ans maintenant. Et depuis le 30e anniversaire du regroupement, donc on a souligné cette année la 8e édition de ça. En fait, c'était la journée de l'alternative en santé mentale qu'on souligne à chaque année le 10 octobre, qui est également la journée mondiale de la santé mentale telle que décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, nous, à cette occasion-là, on essaie d'être un peu plus présents dans l'espace public. Généralement, il y a des rassemblements, des actions qui sont faites, donc toutes sortes d'actions portées par nos ressources et aussi par un comité qui est porté par le regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Et voilà, on a célébré ça cette année le 12 octobre en faisant un rassemblement, donc un point de presse devant les bureaux du premier ministre à Montréal.
Mais on aimerait, d'entrée de jeu, là, avoir un tableau comme un peu d'historique de la situation des personnes qui souffrent de santé mentale. Comment était leur situation il y a de cela quelques années?
Il y a de cela quelques années. Si par exemple, on s'intéresse à ce qui se passait avant la désinstitutionnalisation au Québec, il y avait des asiles privés, en fait, qui étaient portés par des congrégations religieuses, entre autres. Donc, c'était des asiles comme Saint-Jean-de-Dieu, qui accueillait toutes sortes de personnes, en fait, donc toutes sortes de personnes qui divergeaient de la norme établie. Et ces gens-là se retrouvaient dans ces asiles, vraiment privés de leurs droits, privés de leur liberté. Ils étaient enfermés pour combien de temps, ils ne le savaient pas. Ils étaient l'objet de toutes sortes de cures aussi assez expérimentales. En fait, on essayait toutes sortes de choses avec eux parce qu'on ne savait pas trop, en fait, de quoi il était question quand on parlait d'étrangeté, de bizarrerie, de folie, de grande tristesse. On ne savait pas trop d'où ça arrivait et comment aider les gens à s'en sortir. Donc, il y avait, par exemple, des comas insuliniques. Il y avait la lobotomie qui était utilisée, par exemple. Il y a eu toutes sortes de pratiques vraiment qui étaient loin de respecter les droits des personnes et leur intégrité. Et en fait, il a fallu une prise de conscience collective au Québec puis ailleurs dans le monde aussi pour se pencher sur cette situation-là, puis voir comment, c'était vraiment... On venait vraiment... c'est un déni de droit majeur pour ces personnes-là, parce qu'elles étaient privées de leur liberté, on n'écoutait pas du tout leurs paroles. Et il y a eu tout le mouvement de désinstitutionnalisation qui s'est amorcé dans les années 60 au Québec. Et de là, dans le fond, il y a eu une arrivée de ces personnes-là dans les communautés. Et les personnes avaient parfois eu toute une vie d'institutionnalisation. Elles avaient été prises en charge avec des horaires très, très précis, avec des vies très, très cadencées par le travail, par l'isolement et tout ça. Donc, elles se retrouvaient dans la communauté, mais il y avait parfois pas vécu pendant de longues, longues années et il fallait qu'il y ait des services qui se développent. Donc, au Québec, mais il y a toutes sortes d'organismes, dans le fond, de groupes qui sont nés dans les différentes communautés pour venir en aide, pour appuyer ces personnes-là. Il y a eu des groupes d'entraide qui sont venus au monde, donc des groupes où on visait à s'aider entre personnes ex-psychiatrisées. Il y a aussi eu des groupes de services, donc que ce soit des psychiatres, des thérapeutes, des alliés dans la communauté qui voulaient offrir, par exemple, des espaces d'hébergement, des espaces de logement, des endroits d'insertion socio-professionnelle. Donc, il y a eu toutes sortes de ressources comme ça qui se sont développées pour venir en aide, pour appuyer les personnes et leur lutte sociale.
Dans cette institution-là, les gens étaient non seulement médicalisés, suivaient des traitements expérimentaux, mais ils étaient aussi exploités parce qu'on les faisait travailler.
Exactement, on les faisait travailler. Donc c'était ça peut d'une certaine façon ressembler aux prisons privées aux États-Unis, là, sans vouloir faire de parallèle peut-être un peu excessif, mais oui, on avait une main-d'œuvre comme ça qui était captive et qui travaillait, donc qui travaillait au champ, qui fabriquait des petits objets, des choses comme ça. Donc c'est sûr, c'était un système qui pouvait profiter de l'exclusion de ces personnes-là de la société, évidemment. Mais bon, c'était pas le seul système d'exploitation qui existait et qui existe encore, mais c'en était un, oui. En fait, c'est face à ce système-là, en fait, d'exploitation, un système aussi où on réduisait les gens au silence, où leurs paroles n'étaient pas prises en compte, que se sont développés des mouvements de résistance, si on veut, comme l'antipsychiatrie ou le mouvement des survivors aux États-Unis, qui disaient, dans le fond, les gens qui vivent des manifestations qu'on appelle les problèmes de santé mentale ou qu'on appelle la folie, c'est des gens qui ont eux-mêmes une histoire, qui peuvent avoir vécu des violences, qui peuvent porter des traumas. Puis c'est important d'écouter ce que ces gens-là portent, puis de les accompagner sans jamais suspendre leurs droits et libertés.
Well, I was just thinking, I mean, I imagine it's still the case today. People that have what they call a psychiatric history or a history of mental health issues, they're often categorized that way for everything else. So, for example, I had a family member, this is decades ago, maybe you can tell me if it's still happening. Now, she was having some problem, she was having abdominal pain, and she went to see her family doctor. And because he knew her mental health history, he was kind of, well, you know, it's okay, let's wait and see, it's fine. Come back in 2 months, you know. And then she did come back in 2 months and she was still having a problem. So finally, okay, I'll send you for a test. And sure enough, it was colon cancer. So all of a sudden, within less than a week, she was in the hospital, she was having surgery, but she should have had that test 2 months before, and it could have made a difference. I mean, fortunately, the surgery helped, and she managed to survive. She survived 25 years. She died of something. I mean, she died of old age. But the point being that she had this categorization. You know, she was already classified as a mental health patient, so therefore, any physical symptoms that she had were looked on as, oh, you know, it's all in your mind, or it's psychosomatic, or this kind of thing. Now, this happened 30 years ago or more, but I'm wondering, does that still happen today?
Well, yeah, it's still happening today. Like 2 years ago, we had some situations like that that were brought by our members, by alternative resources that were telling us we have members in our resource in Eastern Township or in Montreal that died from cancer because they had no access to treatment, because every time they were going to the doctor and talking about their pain, they weren't believed. And we heard so many stories about that we started to pick those stories and to put them all in a file, because we wanted to talk about it more. How we call it in French is masquage diagnostique, is like how the diagnosis in mental health is masking, is hiding the physical situation. And it's a problem of all the prejudices and discrimination towards people living with mental problems. They aren't being believed when they have a diagnosis in their medical file. They are opening it, they are seeing the mental health
Exactly.
diagnosis,
And then they figure,
and
yeah.
from that point, aren't believed the same way that they would have been if they had no diagnosis. So that's an issue
Exactly.
that show how there's a big stigma problem in the physical health services.
Exactly, because you know, I'm thinking of another person. I knew an acquaintance, and she said the same thing. She had a bit of history of mental health, and then she went to the clinic with some kind of physical symptoms, and as soon as they saw she had a mental health history, they just sent her right away to the mental health
Psychiatric.
department or psychiatry or whatever, even though she was there for a physical problem. She couldn't get any help for her physical issue.
Yeah, and those aren't like isolated stories, because we hear so much of those stories. People that are afraid to go to the hospital because they are afraid to be sent to psychiatry, even though it's physical problems, it's physical pain. They are seen as being also like, I don't know how we can say it, like they are complaining too much, you know? And if they are complaining a lot, it's because they have this mental health diagnosis or
right.
because they are old also. I think we are not taking people as seriously when they are older or
that's
when
true.
They have mental health diagnosis. So that's a big problem, yeah.
That's
it's
still happening, yeah.
And
so
like
we haven't made any progress in that area for these all this time. It still hasn't improved the situation.
Well, I think it's changing, but very, very slowly, because...
Mais c'est,
like,
c'est pas drôle, en tant que
ouais.
réseau.
Mm-hmm.
C'est pourquoi vous existez, vous.
Mais tout à
ouais,
fait,
c'est
assez particulier, parce que ce qu'on voit, c'est que, par exemple, dans le dernier plan d'action en santé mentale, il nommait que c'est important de se battre contre les préjugés et la discrimination au sein même du réseau de la santé, et parce qu'il constatait... que les personnes qui vivaient avec un problème de santé mentale étaient victimes de préjugés. Par contre, les moyens qui sont mis en place pour vraiment lutter contre ces préjugés-là, ils ne sont pas suffisants. Et c'est des moyens qui sont rarement portés par les personnes premières concernées elles-mêmes. Donc, finalement, c'est des professionnels de la santé qui vont dire, « Ah, vous savez, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ben, ils ne sont pas... dangereux, il ne faut pas penser qu'ils mentent, mais c'est le psychiatre qui le dit, c'est sa parole à lui, qui est vue comme étant la parole qui est correcte, qui n'est pas folle. Donc la lutte à la stigmatisation n'est pas menée nécessairement partout par des personnes premières concernées. Donc ça déjà, ça nous indique que c'est des personnes qui n'ont pas la crédibilité suffisante aux yeux des travailleurs de la santé pour faire partie des campagnes de sensibilisation. Donc ça, c'est des choses qui changent tranquillement, mais pas partout, pas suffisamment pour qu'il y ait un réel changement sur le terrain.
Est-ce que les réseaux alternatifs en santé mentale, depuis leur existence, ils prennent en compte ce que les personnes concernées, les personnes qui souffrent de santé mentale, leur parole? Parce que c'est ça aussi. Il y a la parole de ceux qui prétendent savoir, mais il y a la parole de ceux qui vivent les
mm-hmm.
problèmes mentaux.
Tout à fait. Ben, je pense que c'est à la racine du projet de l'alternative en santé mentale, c'est justement de créer des lieux, des espaces d'accueil où la parole des personnes est signifiante. L'histoire de la personne est signifiante. Le sens que la personne accorde à ce qu'elle vit, c'est important. Et ce qu'elle veut est important aussi. Parce que des fois, dans certaines pratiques psychiatriques, on arrive avec des cadres un peu déjà établis. Hein. On veut que la personne chemine avec ces étapes-là dans l'ordre. Il faut que ça se fasse dans l'espace de temps de mois. Mais dans le mouvement alternatif, le respect du rythme de la personne est primordial et le respect de son histoire aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont centrales. Et tout mouvement alternatif, c'est basé dans l'idée de l'alliance entre les personnes premières concernées et des alliés de toutes sortes qui travaillent à leur côté pour militer ensemble, pour faire en sorte qu'il y ait un plus grand respect, il y ait un meilleur accueil. Puis dans le fond, le projet, c'est quoi? C'est que les personnes qui vivent avec une difficulté en santé mentale, elles aient une vie de qualité dans leur communauté plutôt que seulement accès à des services de qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens aient ce qu'il faut, aient la base, en le revenu, le logement, les liens sociaux, un environnement qualité pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé mentale, dans le fond, en lien avec les autres, dans des liens de solidarité et d'entraide.
With the pandemic now, a lot of mental health issues are more intense because people can't get out as much and people are more isolated. They can't have visits, they can't go places. And, you know, even the hospitals now, they're busier because they're dealing with COVID cases and so forth. Have you noticed, are there more people that are coming to your organization for help, or are there some kinds of measures being taken somewhere to try and help people who have mental health issues during this really stressful time?
Many of our resources, we have 100 members in all province of Quebec, so we heard of many members that told us that they have more demands of people who are suffering for the first time of their lives, of more severe situation in mental health. So they had more severe distress, more stress in their lives. And what the groups are struggling with is that they are doing lots of outline support. You know, they are calling people, giving phone calls. But what is the hardest for the people is not to be able to have, like, relationships, like strong relationships with people, like physically present people with them, so they can go for a walk or they can see each other and be in a mutual aid relationship. So c'est vraiment la difficulté de c'est comme le réseau social de base, which is less present in people's life. So this makes everything harder. But I think that most of the people who are suffering for this first time of a mental health difficult episode are more likely to call the public health system, like to 811 number, something like that. So we don't see them in community group at first because sometimes they don't know us because they never had to go through mental health problems. So so sometimes we have a reference from the public network, but
le lien avec les services publics là devrait être renforcé parce que ils disent qu'ils en ont plein les bras, alors que vous, votre réseau, vos réseaux existent et que vous êtes capable de faire une part du travail.
Ben, en fait, nos groupes ont déjà généralement, ils travaillent d'assez près avec le réseau. Donc, généralement, il y a déjà des références qui nous viennent du réseau. Présentement, les difficultés qu'on a, c'est que oui, le réseau a davantage de demandes en santé mentale et eux n'ont pas la capacité en termes de personnel pour accueillir et vraiment donner de l'écoute, des démarches thérapeutiques sur du long terme. Présentement, le réseau est trop sous-financé pour venir en aide à toutes les gens, toutes les personnes qui en font la demande. Donc, c'est sûr que nos organismes, oui, vont recevoir des références du réseau, vont accueillir certaines personnes, mais ça demeure que nos organismes aussi sont peu financés depuis des années. Dans certains cas, il y a un, deux, trois travailleurs dans des groupes d'entraide. Donc, la capacité de soutenir des centaines de citoyens, surtout dans un contexte où on peut faire moins de travail de groupe. Hein, avant, on pouvait faire des groupes de discussion avec 15 personnes. Là, c'est 3, 4 personnes maximum dans la ressource. Donc, ça réduit quand même la capacité d'action des groupes. Donc, oui, il y a la nécessité d'accroître les services, d'accueillir plus vite les gens aussi, de ne pas les laisser sur les listes d'attente. Les groupes communautaires peuvent faire une partie de ça. Mais nous, on croit que le réseau public aussi doit être mieux financé pour pouvoir répondre à ces besoins-là et offrir des services de qualité.
Mais je voulais dire aussi qu'ils ont sorti de l'argent récemment. Est-ce que cet argent-là va rester juste dans le domaine des services publics ou bien ça va aller rejoindre des ressources comme vous autres, là, parce que ça vaudrait la peine quand même. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Oui, ben en fait, il y a un 100 millions qui a été annoncé par le ministre Lionel Carman. Et de cette somme-là, il y a un 10 millions qui va pour les organismes communautaires de 2021 à 2022. Donc, c'est vraiment
à partir de... C'est pas suffisant, 10 millions sur 100 millions?
C'est une somme quand même pour environ 400 organismes communautaires en santé mentale. C'est une somme qui est quand même intéressante, on ne va pas cracher là-dessus, c'est mieux que rien. En même temps, le problème qu'on a avec ce type de financement-là, c'est que ce n'est pas des financements qui sont récurrents, mais c'est des financements qui sont seulement sur un an avec aucune certitude qu'on l'aura l'année d'après. Donc oui, sur cette année-là, on peut se dire, OK, on engage quelqu'un, on développe des services, on se met à suivre 30 ou 40 personnes de plus, mais sans la certitude qu'au 1er avril 2022, on va pouvoir maintenir cette personne-là. Donc, est-ce qu'on crée un lien de confiance, un lien thérapeutique avec des gens qu'on va devoir couper dans un an et demi? Ça, éthiquement, c'est un problème pour plusieurs de nos groupes. Donc, les groupes se disent, quand c'est pas récurrent, oui, il y a des choses qu'on peut faire, mais élargir nos suivis ou notre accompagnement, si on n'est pas sûr de pouvoir le maintenir, c'est pas évident. Mais ça reste que pour bien des groupes, c'est évidemment bienvenu, là, ce financement-là.
I'm sure that older women have a lot harder time dealing with the mental health system, and especially now with COVID, I'm sure it's even worse. And so I'm just wondering, does your network have some way of helping older women, or have you seen ways that it's affecting older women more than younger people? What's the situation of older women now with mental health?
Yeah, well, many things are coming into my mind about older women's, because I think that many of the people who are coming in our resources for mutual aid or for being like un membre impliqué de nos ressources are older women, 55 years and up. And those women are living with more discrimination than younger women or than younger men, sometimes in the mental health system. They are less believed when they say that they are suffering physically. Also, actually, with all the confinements, we see it in résidences de personnes âgées, that people weren't always able to go out only for a walk. And we see it also in ressources intermédiaires, also, actually in mental health, in some housing, in some hébergement, in mental health also. Elderly people can't go out, or even young people can't go out as much as they would want. They can't go out for a walk. And this situation is, like, it's incredible that people can't go out, can go get some fresh air every day, can go out for a walk, and this is really hard for mental health. Also, we see that all the access to technology, to virtual activities on Zoom or Skype or Facebook, when you don't have a computer, when you're not used to use it, like in your everyday life, it can be a huge boundary that is not helping you to reach out to people and to connect with other people. And we see mental health groups that are trying to do virtual activities, like, oh, we're going to make a group for voice hearing people. I don't know, c'est les entendeurs de voix, people who are hearing voices. Some groups are doing some workshops online, but when you're not used to go online on Zoom or Skype or whatever, it can be harder to connect with people. So I think those are some places where older women can experiment more boundaries or more discrimination.
More obstacles, yeah.
Mais il faut aussi parler de la situation pendant la première vague aussi. Comment on a laissé les personnes âgées, là, les aînés, dans un état psychosocial épouvantable?
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment, actuellement, on est sur une espèce de corde raide en équilibre entre la nécessité sanitaire de protéger les gens contre un virus qu'on connaît pas encore très bien, on connaît pas très bien encore les impacts à long terme. Donc, il y a toute cette nécessité-là sanitaire et en même temps, il y a tout le reste des déterminants sociaux de la santé, hein, le sentiment de sécurité, le fait de pouvoir faire une activité physique, le fait d'avoir accès à un lieu où on se sent bien pour habiter, et tous ces déterminants sociaux-là de la santé sont mis à mal par les mesures sanitaires. Donc, c'est pas évident. On le voit dans certains de nos groupes au tout début du confinement. Le jour 3 du confinement, on était vraiment à la mi-mars, il y a des groupes qui se disaient, bon, en hébergement, on peut plus laisser les gens sortir de leur chambre, tu sais, parce qu'il y a un danger, qu'il y a de la contamination et tout ça. Les gens étaient très inquiets. Mais en même temps, on ne peut pas demander à des gens de rester dans leur chambre pendant 4 mois. C'est impossible. Ça a eu lieu, mais c'est pour la santé mentale, c'est très nuisible. Ça a été le cas dans les résidences pour personnes âgées, puis on a vu des gens très désespérés de ça.
Laisser mourir.
Ben c'est ça, parce que leur vie perdait ce qui rendait la vie précieuse et belle, c'est-à-dire le fait de voir les gens qu'on aime, le fait de socialiser, le fait d'être avec d'autres. Donc c'est tout l'équilibre entre, oui, le maintien de notre santé, mais en même temps, de ne pas faire ça au détriment de toute la beauté.
Par rapport aux aînés, là, vous aviez écrit quelque chose dans le réseau? Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qu'il y a dedans?
Oui, ben en fait, on peut vous en parler un peu. Je suis comme émue par l'histoire que vous racontez, Laura, parce que, peut-être juste pour rebondir là-dessus brièvement, on dirait que la pandémie, ça a révélé un peu les inégalités qui existent dans notre société, puis comment il y a des personnes dont on priorise le bien-être au détriment de certains autres. Puis on le voit dans notre société, les aînés sont mis de côté. À un certain point, pas systématiquement, il y a quand même cette tendance-là. Et je pense que le projet social porté par l'alternative, c'est un projet que personne doit être mis de côté. Hein. Chaque vie est précieuse, puis le bien-être de chacun compte. Et il n'y a pas de moindre vie. Hein. Il n'y a pas de personne qui mérite moins sa place au soleil dans ce monde-là. Puis je pense que c'est le projet qui nous anime. Et pour parler un peu du journal Ailleurs et Autrement, c'est un journal qu'on édite depuis 2013, donc depuis la première journée de l'alternative. Et c'est un journal où on publie différents auteurs sur des enjeux qui touchent l'alternative en santé mentale. Et dans notre édition 2020, il y a un comité qui s'appelle le comité vieillissement et santé mentale. C'est un comité animé par Action Autonomie, entre autres, avec un chercheur. Et l'article, en fait, s'appelle, je me souviens plus tout à fait du titre, là, c'est vraiment Pour une lutte collective contre l'âgisme et le sanisme. Donc, c'est des personnes aînées qui vivent aussi avec un diagnostic en santé mentale, qui ont un historique parfois avec la psychiatrie aussi, avec le système psychiatrique, et qui parlaient comment il y a une intersection, il y a plusieurs intersections dans les oppressions qu'on vit, mais eux, c'était l'intersection vieillissement et santé mentale. Donc, ils vivaient les effets des préjugés à l'encontre des personnes âgées et les effets des préjugés à l'encontre des personnes vivant avec un diagnostic. Et cet article-là, c'est très intéressant parce qu'il parle de ce vécu-là. Donc, les préjugés qu'ils vivent, la discrimination qu'ils expérimentent et les solutions qu'ils aimeraient voir en place. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est un journal qui se trouve en ligne sur le site www.jeunehistoire.com. Je pense que c'est /journal 10 du 10. Donc, pour ceux qui sont curieux d'aller lire cet article-là pour une lutte collective contre l'âgisme et le sanisme, c'est intéressant de voir comment ces vécus-là, en fait, c'est important qu'on les mette davantage en lumière et qu'on puisse sensibiliser aussi les gens qui travaillent dans les organismes, qui travaillent dans le réseau de la santé aussi, pour faire en sorte que justement tous les citoyens, peu importe leur âge, peu importe qu'ils soient diagnostiqués ou non, toutes les citoyennes aussi, évidemment, puissent avoir accès à des services de qualité et empreints de respect et qui respectent leur dignité.
Tied to the
Welcome back. That song was called Thorazine by the Berkeley Women's Music Collective. That song was recorded decades ago, and Thorazine is a drug also known as chlorpromazine. It was one of the older antipsychotic drugs or major tranquilizers, quote-unquote, which have a lot of negative side effects. And as you heard in the song, the patient in the song suffered greatly from these side effects, having been committed against her will and so on. So I'll just summarize a little bit of the interview, since most of it was in French. So first of all, the organization is called the Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec, the Quebec Mental Health Alternative Resource Association. Now previously, of course, I'm sure a lot of you have heard stories about the bad old days when people could be locked up quite easily. Even rebellious teenage girls and other people could be locked up with no rights at all. They never knew how long they might be locked up for in a psychiatric institution. Their conditions were often medicalized to the extent that they were used as guinea pigs for experimental drugs and other kinds of barbaric treatments. They were also exploited for cheap labor, either working in the fields outside or working in some kind of light manufacturing context, manufacturing products and so on. They were not respected in any way. And the anti-psychiatry movement developed in response to this. The Regroupement, the RRASMQ, contested the abuses and limited treatment choices offered in psychiatry, and the movement, the anti-psychiatry movement, arose in the late 70s after the waves of deinstitutionalization which came about. Quebec's alternative movement in mental health was inspired by the North American anti-psychiatry movement and survivors, which called into question the dominance of the biomedical model of psychiatry. So the Regroupement was launched in 1983 by an alliance of service users, alternative community groups, and advocacy groups in the field of mental health. And these pioneers shared and proposed a positive view of mental health and different approaches, alternatives to psychiatry. And people with lived experience were deemed to have the right to a legitimate place in society. And the Regroupement was developed around a vision that contested the biomedical model and its emphasis on pathology and deficits. So over the years, the alternative identity grew and evolved from the practices and approaches that emerged from various alternative resources. So this alternative movement is first and foremost a philosophy, another way of looking at mental health issues and perceiving people who are experiencing these issues. And the alternative is also a common attitude of respect for people with lived experience, with their own stories and realities, through a positive, non-pathological view of mental health. And this movement is based on the belief that solidarity between individuals and participation in community contributes to well-being. And it also believes that all communities have the potential for the self-actualization of its members. It calls into question the biomedical culture of mental health, which considers disease more than health, and it remains critical of medical knowledge and its models of rehabilitation and the treatments used in psychiatry. And it also questions the social culture that emphasizes performance and productivity of individuals, and it's part of the autonomous community movement. Now, the link with public services is something that is always a bit problematic. Now, given the COVID situation, which makes mental health a much bigger issue for a lot of people, since we're all quite isolated now, many of us are confined to our homes, and people in institutions are not allowed to have visitors and so on, this makes mental health problems much more serious. Now, some money has been freed up by the government, by the Quebec government. So for the year 2021-2022, there are $10 million that are going to be allocated to various community groups for alternative resources in mental health. But this really is not a recurring thing. It will only last for a year or two. So a lot of the groups, as Anne-Marie Boucher pointed out, are hesitant to start any kind of long-term projects or increase their clientele, because if they develop a therapeutic relationship with many clients and then their funding gets cut off after a year or two, they have to stop these relationships, and that can become quite traumatic and problematic for the clientele. So although they can do some things and it's better than nothing, this is still going to be an ongoing problem. This doesn't solve the long-term problem. One of the other things that was brought up in the interview is that the situation in residences for older people is quite lamentable. As we know, we've been hearing a lot of this on the news, and it's especially bad for older persons' mental health, because in these institutions, what was happening is, after the pandemic was around for a little while, the residents were basically confined to their rooms. And it's fine if you do that for a few days, but you can't imprison people in their rooms for 4 months by themselves, like solitary confinement. It obviously is going to have a negative effect on anyone's mental health, let alone if you're older and already suffering from physical ailments, or if you're somebody that has been suffering from some kind of mental health issues as well. And if you combine the two, you've got double jeopardy going on. So this is really a very difficult thing. There is a lot of discrimination, of course, against older persons generally, and when you combine that with older persons who may have some mental health issues, this situation is obviously going to be compounded in a negative way. And basically, at the end of the interview, Anne-Marie was saying that the organizations that are part of the network of alternative resources, they're basically working towards having a lot of alternatives and promoting the understanding that all of us are worthy of dignity and respect, regardless of our age, our mental health status, or anything in between. All lives are important, and we all deserve to be treated with dignity and respect. Now, although this interview is mostly in French, there are some bilingual resources available. So first of all, you can check out the website of the regroupement, which is at rrasmq.com. rrasmq.com. And there's a list here of bilingual resources, so there are resources available in English. I'm not going to read them all to you, but I will share a couple of them that you can check out. There's one called Projet PAL, P-A-L, or Project PAL, and you can check out their website at www.projetpal, that's P-R-O-J-E-T-P-A-L.com, and they're on De l'Église Street in Verdun, 861 De l'Église in Verdun. Their phone number is 514-767-4701. There's another organization called Action Autonomie, and their phone number is 514-525-5060, 514-525-5060, and their website is www.actionautonomie, that's Action, A-C-T-I-O-N-A-U-T-O-N-O-M-I-E, Autonomie, the French word for autonomy. So Action Autonomie, that's all one word, .qc.ca. And there's a number of others. There's one in Longueuil, one in Ormstown, one in Richmond, Quebec, one in Châteauguay. So you can get all these other addresses and phone numbers on the RRASMQ website. Again, that's rrasmq.com. And if you look at the top of the page on the website, you'll find one of the tabs is called Publications. If you click on that, you can find information on their newsletter. They have a newsletter that comes out yearly. And if you can read French, the latest issue of their newsletter, the 2020 issue, does have an article about ageism and mental health. So that would be very much of interest to the listeners of this program. If you go on the RRASMQ website, you can also download for free a number of guides around the GAM program, which is an acronym for Gaining Autonomy and Medication. So it's a way for people who are on psychiatric medications to have more autonomy around their medication, to try and possibly reduce it safely, or to manage the side effects of the medications and so on. There are 5 different guides that you can download for free. They're quite elaborate. I took a look at one of them. It's got about 168 pages and a lot of information there in English. I'd like to thank Anne-Marie Boucher for being on our program, and Marlène Rateau, of course, for doing her usual great job of preparation and interviewing. So we're going to take a musical break, and then we're going to come back and discuss November 11th and Échec à la guerre. This is the late Lassa da Sela and a song from her first album, The Living Road. This is called La Frontera, or The Border. Was La Frontera by Lassa da Sela from her first recording, The Living Road. And you're listening to Older Women Live on CKUT 90.3. I'm Laura Yaris, your co-host, and with me, of course, is Marlène Rateau. And we're now going to have a little discussion about today, which is November 11th, otherwise known as Remembrance Day.
On est aujourd'hui le 11 novembre 2020. Alors, cette journée, qu'on appelle le jour du souvenir ou jour de l'amnistie, commémore annuellement en Europe et dans les pays du Commonwealth les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres. Donc cette journée se veut un rappel de la signature de l'armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. Dans les pays du Commonwealth, comme le Canada, le coquelicot est un symbole à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Le jour du souvenir y est l'occasion de vente de coquelicots en papier au bénéfice des anciens combattants. Il faut dire que ce rappel annuel de la fin de la Première Guerre mondiale n'a vraisemblablement pas permis aux nations de ce monde de tirer une quelconque leçon de pacifisme. À preuve, depuis, les guerres se font de plus en plus meurtrières. Si les armes modernes diminuent les pertes en vies humaines chez les soldats, on constate une augmentation exponentielle des pertes chez les populations civiles. L'industrie d'armement n'arrête pas. Depuis 2001, on assiste à une augmentation des dépenses militaires, principalement aux États-Unis. Parce que dans les années 90, là, au lendemain de la chute de l'URSS, ça avait diminué un peu. Mais on voit à nouveau que les dépenses militaires explosent et ont tendance à dépasser les niveaux d'autrefois. Alors, on a donné cette comparaison-là, j'ai lu cette comparaison-là sur le web. Là. Quand les États-Unis dépensent 1 dollar pour l'aide humanitaire, ils en dépensent 23 pour l'armement. Alors, ça donne une idée. On parle des États-Unis, mais de la domination militaire des États-Unis sur la planète, tendance à laquelle participe le Canada, n'est-ce pas? Que s'est fondé le travail du collectif Échec à la guerre. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du travail du collectif Échec à la guerre. Et ils font la promotion du coquelicot blanc. Mais aujourd'hui, comme on est le 11 novembre, il y a ceux-là qui portent le coquelicot blanc, le portent déjà et oui. On les félicite. Mais j'aimerais lire le texte de la déclaration publiée dans le journal Le Devoir du samedi 7 novembre par le collectif Échec à la guerre. Le texte s'intitule « L'heure est grave ». Pendant que le bulletin des scientifiques atomiques avançait son horloge de l'apocalypse à 100 secondes avant minuit pour illustrer la situation la plus dangereuse que l'humanité ait jamais affrontée, les ogives des 9 pays détenteurs d'armes nucléaires dans le monde sont des centaines de fois plus puissantes que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki qui ont fauché la vie de plus de 200 000 personnes. Les arsenaux nucléaires actuels pourraient, à eux seuls, anéantir l'humanité ainsi qu'une grande partie de la vie animale et végétale sur la Terre. Néanmoins, le Canada a boycotté le processus d'élaboration et d'adoption du traité pour l'interdiction des armes nucléaires adopté en 2017 par 122 pays sur 192. Les États-Unis et la Russie n'ont pas renouvelé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Et de plus, les États-Unis ont indiqué qu'ils n'accepteront pas de prolonger le traité New START de réduction des armes nucléaires stratégiques qui expire en février 2021. Pour les populations civiles, le danger ne s'arrête pas là. Les bases et les sites d'entraînement militaire partout dans le monde génèrent des tonnes de déchets toxiques qui contaminent les sols et les nappes phréatiques. Les opérations militaires ont des effets importants sur le réchauffement climatique, par exemple. L'armée des États-Unis, à elle seule, est l'institution qui produit le plus de gaz à effet de serre dans le monde. Malgré les critiques qui lui ont été adressées par un groupe d'experts de l'ONU, le gouvernement du Canada vient de reprendre la vente de véhicules blindés et d'armes à l'Arabie Saoudite. De l'équipement militaire susceptible d'être utilisé dans la guerre au Yémen qui a fait plus de 100 000 morts, dont de nombreux civils. Les États-Unis jouent de plus en plus la carte de l'ingérence, de l'intimidation et de l'agression militaire. La menace de nouvelles guerres encore plus destructrices grandit et avec elle, le risque d'une conflagration nucléaire. J'ai une petite annonce à faire pour Échec à la guerre. Si Échec à la guerre, comme chaque année, ils ont des marraines et des parrains, et avec eux, il va y avoir une table ronde. Il y a une table ronde qui a lieu présentement de 18 à 19 heures.
Ah oui, ça coïncide avec nous.
Diffusée directement sur Facebook à l'heure de la diffusion de notre émission. Mais il est possible de visionner le tout en différé.
Merci beaucoup, Marlène. Thanks, Marlène. I'll just summarize a little bit. Today is November 11th, otherwise known as Remembrance Day or Armistice Day, and its origins date back to 1918, when the First World War ended and the treaty to end the war was signed at the 11th hour on the 11th day of the 11th month. But of course, since then, there have been many more wars, and we now honor veterans of all wars dating back to World War I and everything right up to today, where there are still wars. We often wear a red poppy, which is sold by the Canadian Legion, all the branches across Canada. And the proceeds from these sales of the red poppy go to help out veterans in different ways. There is, however, a group called Échec à la guerre, or Stop the War. It's a collective that works on anti-war issues, and they have a campaign called the White Poppy Campaign, where people can purchase a white poppy to wear alongside their red poppy to commemorate the civilian victims. Because, of course, back in World War I, the conventional weapons didn't have as long a range as the weapons do today. And one of the things Marlène was pointing out was that today the damage of war affects civilians much more than military personnel, because the types of weapons that we have developed since then can be launched at a distance, and they have much more power to wreak much more destruction on the earth and everybody upon it. The group Échec à la guerre has issued a declaration. They have a very interesting website that I recommend you visit. I won't have time to read the whole declaration translated into English, but I will read a little bit of it. The warheads of the 9 countries that have nuclear arms in the world are 100 times more powerful than the bombs that were launched against Hiroshima and Nagasaki at the end of World War II. And nuclear arsenals that are currently available can annihilate the entire world. The United States and Russia did not renew their treaty on nuclear arms. The threat is at 100 seconds to midnight, according to the doomsday clock. In July and then again in October, the Voice of Women, Canadian Voice of Women for Peace, launched a campaign against the fighter jet purchase that the Canadian government has been proposing. So yet another way that the governments are promoting war over peace. If you'd like to get more information, you can visit, I'll give you the websites, you can visit vowpeace.org, that's voiceofwomenpeace.org/nofighterjets for more information on that. And if you'd like to visit the website of Échec à la guerre, it's basically échecàlaguerre.org, so that's échecàlaguerre.org. And also, at this very moment, Échec à la guerre has a panel discussion going on live on their Facebook page with representatives from this year's campaign for the White Poppy. So as soon as you're done with this program, you can head over to Facebook and look up the Facebook page of Échec à la guerre, and you'll be able to watch the presentation, not live anymore, but you'll be able to watch it as a recording. So you can do that at any time, of course. Doesn't have to be right now. If you want to eat your supper first, you can do that. So we're just about out of time here, and I'd like to thank Marlène once again for all her help and work on this program. And we're going to go out now with a little healing music from the late, great Kay Gardner. This is a short solo flute piece called Inner Mood, and we wish you all a peaceful, safe, and healthy end of the day. And entire month, and let's hope that by the time we meet again, we'll have made a little bit of progress in the right direction. My name is Laura Yaris. I've been your co-host. This is Older Women Live, CKUT 90.
Good evening and welcome to Amandla here on CKUT 90.3 FM in Montreal. Amandla is your 1 hour of African current affairs. And well, tonight it's kind of a solo show, actually, Doug. Thank you. You have put together a lovely lineup. Could you let us know what's in store for tonight?
Well, it is November 11th. And I've always sort of paid tribute on November 11th to the Second World War. I'm a child of the Second World War. I was born literally that many months that it takes after my dad got off the troop ship